Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition spéciale de Grand Bien vous fasse. S'allonger sur la pelouse d'un parc et sentir les rayons du soleil sur son visage, se balader en forêt et prendre une grande inspiration pour apprécier une odeur d'humus ou de résine, voilà quelques plaisirs simples dont nous allons devoir nous passer en ce début de printemps. Alors rester confiné, d'accord, mais comment garder un lien avec la nature depuis son balcon ou sa fenêtre? Et si la nature nous manque, pas sûr que l'inverse soit vrai. Quels effets notre confinement pourrait-il avoir sur la biodiversité dans nos villes et nos campagnes ? Nous allons en parler dans un instant avec trois passionnés de nature, l'ornithologue Grégoire Loïs, la philosophe des sciences Vinciane Després et l'architecte Nicolas Gilsoul. Pour participer à la discussion, intervenez au 01 45 24 7000 ou via la page de Grand Bien vous fasse sur franceinter.fr. Dites-nous comment vous arrivez à garder le contact avec la nature depuis chez vous. Partagez avec nous les observations que vous faites depuis votre fenêtre. Même dans les grandes villes, on peut apercevoir une faune inattendue. Rapaces, chauves-souris, fouines, renards et même blaireaux. Dites-nous ce que vous avez vu. Je poserai aussi la question à notre ami Denis Chessou qui passera nous faire un petit coucou tout à l'heure. En deuxième heure, nous nous évaderons avec Mathieu Tordeur, le plus jeune explorateur au monde à avoir rallié le pôle Sud en solitaire, sans assistance ni ravitaillement. Il reviendra sur cette aventure et il nous dira si cette expérience de solitude extrême l'aide aujourd'hui à affronter l'isolement et le confinement. Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, quant à lui, nous donnera quelques conseils d'observation astronomique à faire dans les prochains jours depuis sa fenêtre ou son balcon. Et puis dans la dernière partie de l'émission, vers 10h35, nous parlerons cybersécurité avec Éric Fraissinet, chef du pôle national de lutte contre les cybermenaces de la gendarmerie nationale. Il nous dira quels sont les bons réflexes à adopter pour éviter de se faire pirater son ordinateur à l'heure du télétravail et des cours en ligne. Vous pouvez d'ores et déjà lui adresser vos questions par mail ou par téléphone, toujours au 01 45 24 7000. Puis Sophie Bécherel de la rédaction de France Inter est également avec nous pour ces deux heures. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne au temps du confinement, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Daniel Fievé.
Un mail que nous a envoyé Patricia, qui nous écoute et qui nous a donné envie de faire cette émission. Elle nous l'a envoyé il y a quelques jours. Je vis le confinement dans mon appartement de Lyon. Pour l'instant, je garde un rythme. Ce que j'appréhende le plus, c'est de ne plus être en contact avec la nature. J'ai un rapport assez fort avec la terre et le végétal. J'avais l'habitude de marcher dans l'herbe, en forêt, en montagne, très régulièrement. Être coupé de la nature plus de 10 jours impacte mon état émotionnel et psychique. Vos invités ont-ils des conseils à donner pour ne pas me sentir dévitalisé, voire déprimé, si le confinement dure? Bonjour Grégoire Loïs.
Bonjour.
Vous êtes naturaliste et ornithologue, directeur adjoint du programme de sciences participatives Viginature au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous avez publié « Ce que les oiseaux ont à nous dire » aux éditions Fayard. J'imagine que vous comprenez et que vous éprouvez, vous aussi, ce manque de nature en ces temps de confinement, ce manque qu'exprime Patricia.
Ah ben, j'ai d'autant plus d'empathie que je suis coincé dans Paris, dans le 15e arrondissement, et sans jardin, évidemment.
Alors, sans jardin, mais est-ce que vous, surtout le spécialiste des oiseaux, vous voyez passer quelques spécimens intéressants à votre fenêtre, Grégoire ?
Alors, c'est difficile. Voir passer, non, parce que j'ai vraiment pas un bon champ de vision, mais par contre, il y a un peu d'activité sonore. Il y a des oiseaux qui chantent malgré le froid.
Donc si nous ne pouvons pas aller à la nature peut venir à nous au moins par les oreilles. Alors un peu plus tard dans l'émission, on aura l'occasion avec vous d'apprendre à décrypter quelques chants d'oiseaux. Mais déjà, dites-nous quelques noms d'oiseaux qu'on peut entendre dans nos villes actuellement.
Alors le plus notable, alors bon, je souligne qu'il y a quand même une petite vague de froid et qu'elle a un effet pénalisant sur l'activité des chants d'oiseaux. Mais le plus notable, c'est le merle noir.
Ouais. Alors, on l'entendra tout à l'heure, le merle noir, d'ailleurs. Il y en a d'autres. Alors, pour le moment, les oiseaux migrateurs ne sont pas encore revenus, ne sont pas encore de passage, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des remontées d'oiseaux migrateurs qui nichent beaucoup plus au nord. Mais finalement, tous les migrateurs subsahariens, les migrateurs qui sont longue distance, comme l'hirondelle, le rouge-queue à front blanc, ne sont pas encore remontés.
Vinciane Després, bonjour.
Bonjour Daniel Fever.
Vous êtes philosophe des sciences, professeur à l'université de Liège. Votre dernier livre s'intitule « Habiter en oiseau » aux éditions Actes Sud. Vous diriez, vous, que ce besoin de nature, finalement, on est en train de l'éprouver à l'heure du confinement, et puis ces chants d'oiseaux nous permettent de garder un lien.
En tout cas, c'est ce que je reçois majoritairement dans de très très nombreux mails et ce que je peux constater aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les gens sont devenus depuis le confinement beaucoup plus attentifs aux oiseaux, comme si les oiseaux venaient répondre à, je vais dire, à un désir et venaient un peu, d'une certaine manière, mettre un peu de joie, un peu de vie, un peu de lumière dans ce qui est en train d'arriver. Et donc, je remarque que les gens, par exemple, enregistrent énormément de chants d'oiseaux ou bien m'envoient des photos qui disent « Ah, mais j'ai vu le merle, j'ai vu une fauvette, j'ai vu, il y a la grive est venue. » Et c'est assez extraordinaire, comme je vais dire, comme quelque chose qui touche énormément de gens. Il y a peut-être aussi un autre quelque chose qui m'a été dit aussi, que j'ai vu passer deux, trois fois, c'est que il y a des personnes qui majoritairement vivent en ville et qui ont l'impression, ben voilà, le contraste est tellement fort entre ces oiseaux dont elles ont l'impression qu'ils sont libres et elles-mêmes qui sont enfermées à l'intérieur comme s'il y avait un effet d'aversion. Et ça, c'est intéressant aussi. Et on réfléchit à cette question en se demandant, tiens, mais est-ce que ce contraste est-il vraiment tenable? Et je pense que l'ornithologue répondrait sans doute mieux que moi, mais les oiseaux que moi, en tout cas, je vois à ma fenêtre en ville et que souvent les gens me décrivent, ce sont des oiseaux territoriaux qui sont de toute façon eux-mêmes en train d'une certaine manière de pratiquer une forme de confinement à l'extérieur, puisque le territoire, c'est on se fixe un lieu, on s'y attache et on va commencer à déployer quantité d'activités autour de ce lieu pour le protéger, pour le défendre. On va chanter, on va l'arpenter, etc. Et donc les oiseaux, en fait, ils ont dans des formes de confinement extérieur. En tout cas, je parle des oiseaux territoriaux, qui ne sont pas tellement éloignés de ce que les gens vivent. Et c'est assez intéressant de voir que, d'une certaine manière, les gens se mettent à comparer leur propre sort, soit sur un mode analogique, soit sur un mode par contraste avec celui des oiseaux à l'extérieur.
Grégoire Loïs, je les sens quand même plus libres que nous actuellement, les oiseaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, même s'ils ont leur territoire.
Ah ben infiniment, ouais. Effectivement, ils sont extrêmement cantonnés parce qu'il y a la reproduction qui va commencer. Il y a un enjeu très 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 fort à se définir un territoire et à s'y tenir pour avoir des ressources pour élever les jeunes. Mais bon, c'est clairement nous qui sommes en cage là, hein, comme on l'a dit.
Oui. Nicolas Gilsoul, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes architecte passionné de nature. Vous avez récemment publié Bêtes de ville aux éditions Fayard, un ouvrage absolument passionnant dans lequel vous parlez des animaux sauvages qui ont élu domicile dans nos villes. Et on se rend compte qu'il n'y a pas seulement ces oiseaux dont on parle actuellement. On trouve quantité d'animaux sauvages dans les villes du monde entier. Je ne sais pas si vous voulez nous donner quelques exemples.
Oui, et puis ils étaient là avant le confinement. Ouais. Hein, on compte 35 000 sangliers à Berlin, 15 000 coyotes à Chicago, il y a des wistiti à Medellin, il y a des bernaches à Denver et à New York, des renards à Londres et à Bruxelles, et des kangourous à Canberra, voire près de Paris, du côté de Rambouillet.
Ah oui, il y a des kangourous près de Rambouillet. Qu'est-ce qu'ils font là? Comment ils sont venus ici?
Alors, il a fallu la tempête de 99 pour abattre un arbre sur la clôture d'un parc animalier pour qu'ils se fassent la malle. Ils sont partis dans les bois, ils se sont trouvés là très très bien, ils ont à peu près la même couleur que les chevreuils, donc ils sont bien camouflés. Et comme il n'y a pas de permis de chasse pour les abattre, eh bien, ils se reproduisent joyeusement depuis 99 dans les bois du côté de Rambouillet.
Donc on a une chance, si on habite Rambouillet, même sans sortir de chez soi, en regardant par la fenêtre, d'apercevoir un kangourou.
Voilà.
Bon, ça vaut le coup de patienter devant sa fenêtre. Est-ce que dans d'autres villes de France, vous avez comme ça une faune sauvage inattendue qui a élu domicile?
Alors oui, la chose qui est incroyable, parce qu'on vit quand même un moment historique, le pire scénario de science-fiction qu'on ait pu imaginer. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il ait fallu attendre ça pour se rendre compte qu'on n'était pas seul dans la ville. Pour entendre les chants d'oiseaux le matin, pour voir traverser un renard aux petites heures de la journée, etc. Tous ces animaux-là, je pense notamment aux hérissons, il y en a plein dans nos villes, il y en a plus dans nos villes que dans nos campagnes finalement.
Ouais. Des hérissons, on en trouve à Nantes notamment, c'est devenu un peu un emblème de la santé écologique, une emblème?
Oui, Nantes est très très fière de parler de ses hérissons, parce qu'en fait le hérisson, il a non seulement un capital sympathie énorme, mais c'est une espèce parapluie, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. Quand il y a hérisson, il y a 135 autres espèces, flore et faune, qui sont associées. Voilà. Et dans les villes, il a adapté ses horaires de sortie, il sortait plus tard. Alors maintenant, avec le confinement, comme les rues sont vides, assez vite, on commence à apercevoir des comportements différents. C'est-à-dire que certains animaux, notamment la plupart des animaux opportunistes, vont venir chercher à manger plus loin, au cœur de nos villes. Et donc, c'est ce qu'on entendait dans le reportage sur Vittel juste avant, les corbeaux qui croissaient, symboles de mauvaises nouvelles, etc. Non, c'est surtout qu'ils viennent chercher à manger dans les villes. Et on le voit déjà à Paris aussi. Moi, je suis aussi coincé dans Paris. On voit que les hordes de pigeons commencent à chercher de plus en plus de nourriture. Au Japon, ce sont les cervicas qui ressemblent à des daims, qui sont d'habitude nourris par les milliers de touristes qui viennent à Nara. Et là, maintenant, comme il n'y a plus de touristes, ils ne trouvent plus la nourriture, donc ils vont la chercher jusque dans le métro. Ils n'ont pas l'habitude de manger ça directement dans les sacs plastiques, donc ils avalent les sacs plastiques avec. Donc il y a une reconquête, mais comportementale, parce qu'on a vidé nos rues.
Grégoire Loïs, à Paris, qu'est-ce que l'on peut croiser? Alors, on en citait quelques-unes, mais il y a d'autres. On peut trouver des chauves-souris, des renards, des fouines, alors les surmulots, on le sait, hein, il y a beaucoup de rats à Paris. C'est tout un bestiaire qu'on peut croiser dans nos rues, surtout quand nous n'y sommes plus.
Eh ben, alors, il y a une anecdote étonnante. Là, il y a une collègue qui a partagé une vidéo qui a été filmée à Angien, donc à Angien-les-Bains, juste à côté de Paris, avec 6 canards colverts qui déambulent sur le trottoir, suivis par un pigeon. Donc une femelle et 5 mâles qui occupent finalement un espace complètement laissé libre. Et on a la chance comme ça de pouvoir voir des scènes complètement insolites avec des animaux qu'on ne rencontre pas d'habitude puisqu'il y a une occupation de l'espace. Et même dans les espaces verts, par finalement les animaux domestiques en promenade, les enfants, enfin toutes sortes d'activités anthropiques qui peuvent être extrêmement, qui ne laissent pas beaucoup de place au fait d'occuper l'espace, notamment au sol. Et là, on a l'occasion de voir comme ça des scènes absolument... incroyable. Mmh. Dans le cas des canards colverts, c'est pas terrible parce que c'est une femelle suivie par 5 mâles et la reproduction des canards colverts est assez violente.
Oui. Ça assez agressif. Les mâles sont assez agressifs avec les femelles.
Tout à fait.
Il y a des spectacles, effectivement, quand on regarde la nature, les spectacles sont pas toujours beaux à voir. Alors, vous invitez, hein, Grégoire Loïs, avec le muséum, avec des opérations de sciences participatives, à observer la nature pour vous aider dans vos recherches. Et actuellement, même depuis chez soi, depuis sa fenêtre, depuis son balcon, on peut faire des observations, se connecter au site du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et ce que l'on aura vu, alors ça peut être des insectes, ça peut être des oiseaux, ce sera utile pour vous? Comment ça marche exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous en quelque sorte?
Alors en fait c'est simplement le déploiement de protocoles qui préexistent depuis des années, hein, mais dont on se dit que dans ce contexte de confinement, tout en respectant le confinement, il peut y avoir, on s'ennuie, hein, même avec beaucoup d'activités, on finit par se trouver beaucoup de temps libre, beaucoup trop de temps libre.
C'est vrai.
Et du coup, on se dit qu'on peut proposer aux gens de déployer ces protocoles au jardin, depuis la fenêtre, depuis le balcon. Il s'agit par exemple de compter les oiseaux et de les nommer. Alors, c'est vraiment à la portée de tous, parce que finalement, il y a quand même peu d'espèces dans son jardin. On plafonne à une vingtaine d'espèces, hein, si on observe 10 minutes. Et on peut du coup apprendre même à reconnaître ces oiseaux à la vue et au chant. C'est assez simple finalement. Mmh. Mais il y a aussi, on propose aussi de faire ça sur les bourdons, les papillons, on propose de faire ça sur les insectes pollinisateurs, c'est-à-dire de rejoindre des programmes qui préexistaient dans le cadre de ce qu'on appelle Viginature, et qui finalement sont des programmes suffisamment standardisés pour que les milliers, les millions de données collectées soient utiles aux écologues afin de mettre en évidence des effets macro, des effets à grande échelle.
Alors,
notamment là, l'enjeu c'est de voir quel sera l'effet du confinement.
Oui, alors on aura peut-être des questions d'auditeurs qui demanderont exactement comment ils doivent s'y prendre, mais c'est vraiment un conseil qu'on peut donner aux familles. Voilà une activité à faire tous ensemble, on se met à la fenêtre. C'est quand vous dites c'est standardisé, c'est-à-dire que c'est sur un temps donné, hein, il faut noter le laps de temps dans lequel on s'astreint à ces observations. On prend un petit carnet, on note ce que l'on voit. Alors soit on choisit, hein, soit les insectes, si on a quelques fleurs sur lesquelles on peut guetter, ou alors les oiseaux. Vous nous apprendrez dans un instant d'ailleurs à les reconnaître, ces oiseaux. Et puis nous allons aborder d'autres questions dans cette émission. Quels effets notre confinement pourrait-il avoir sur la biodiversité dans nos villes et nos campagnes? Et puis nos amis auditrices et auditeurs, vous pouvez bien sûr nous adresser vos questions, racontez-nous vos observations naturalistes depuis votre fenêtre ou votre balcon, donnez-nous vos idées pour profiter un peu du printemps malgré le confinement au 01 45 24 7000 ou sur la page de Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr. À la réalisation de Grand Bien Vous Fasse aujourd'hui, Laurent Thomas, Sophie Vaux et Pierre De Certaines m'ont aidé à préparer cette émission, et à la technique, c'est Fabrice Desmaz.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre.
C'était Juliette Gréco, un petit poisson, un petit oiseau.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
On se met au vert dans Grand Bien Vous Fasse ce matin avec la philosophe des sciences Vinciane Després, le naturaliste Grégoire Loïs et l'architecte Nicolas Gilsoul, et puis les auditeurs qui nous rejoignent au téléphone. Eric, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'Orléans?
Oui, oui. Alors pas la pleine ville, hein, la campagne d'Orléans.
Ah, bah alors,
la pleine ville,
oui.
C'est pas pareil.
Donc vous avez un rapport, un contact privilégié avec la nature là où vous êtes.
Oui, oui. Alors j'ai eu cette chance-là parce que j'en suis originaire. Hein. J'habite habituellement à Argenteuil en Île-de-France, mais pour des raisons de santé de mes parents âgés, j'ai dû rentrer en catastrophe 2 jours avant le confinement. Ils se retrouvent tous les deux à la maison de retraite et à l'hôpital, et donc je me retrouve tout seul dans cette grande maison. Au milieu des maraîchages et des pépinières, hein, puisque mes parents étaient de ce métier-là, et les voisins aussi. Et donc j'ai devant moi un grand terrain dont il faut s'occuper, en particulier, c'est la taille. Mmh. C'est la taille pour avoir des fruits ou des fleurs.
Ça vous aide à tenir dans cette solitude, finalement, d'avoir
Absolument.
À prendre soin de toute cette végétation autour de vous?
Ah oui, oui. D'abord, j'étais pas préparé, bien que j'ai gardé les gestes et beaucoup d'habitudes, mais enfin, j'avais beaucoup de choses que j'avais perdues. Alors, je dois retrouver les noms des espèces végétales, je dois retrouver les types de tailles. Certaines sont évidentes, d'autres moins. Alors, j'appelle mon père, qui a son portable à l'EHPAD, et puis il me guide comme s'il avait une caméra dans la tête. Et il me dit, là, tiens, tu regardes, il y a un cercis, là, il y a un photinia, là, il y a un cèdre atlantica glauca. Enfin, il me sort des noms mi-latin, mi-botanique, alors qu'il n'a jamais fait de latin. Et il me dirige comme ça, et je lui dis, ça, c'est, je suis pas d'accord, je lui donne ce nom-là. Il me dit, oui, mais ça, c'est le nom local, mais il y a un autre nom. Enfin, bon. Donc c'est très vivant et je suis très surpris. Puis je rencontre les oiseaux, le vent dans les arbres. Il n'y a plus de bruit d'avion, de très peu de voitures. Les voisins sont plus ou moins loin, donc je me retrouve vraiment pas isolé, mais tout seul face à ce monde-là qui ne m'attendait peut-être pas. Mais moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup.
Ce qui est formidable, c'est que ça vous aide, mais certainement que ça aide aussi votre père qui garde un contact avec son jardin et la nature grâce à vous. Est-ce qu'il y a des oiseaux autour de vous? Profitez, on a un ornithologue de pointe avec nous, Grégoire Loïs. Est-ce qu'il y a un oiseau que vous avez vu passer qui vous intrigue, ou sur lequel vous aimeriez des précisions?
Il n'y en a pas vraiment qui m'intrigue. En tout cas, je remarque que, faute d'entretien, j'ai un petit jardin à l'intérieur de la maison, une sorte de patio. Et là, j'ai par exemple vu ce que je n'avais jamais vu par ici depuis longtemps, un couple de mésanges, je pense, charbonnières, parce que les herbes que j'ai laissées pousser, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper dans ce petit jardinet, eh bien, ont des graines. Et donc, le couple est là tout le temps en train de l'un de monter la garde et l'autre de grappiller. Après, bon, comme partout, de temps en temps, il y a un jet, il y a beaucoup de pigeons, malheureusement, des pies, bien sûr. Mais j'ai pas de d'étonnement particulier en termes d'oiseaux, des merles bien sûr.
Alors si ce sont bien des mésanges charbonnières, hein, ce couple que vous avez vu s'installer, normalement il doit faire ce cui-cui là, les mésanges charbonnières. On l'a la mésange charbonnière. Ça fait bien ce bruit là, Eric ?
Je crois, mais non, je suis pas sûr.
Bon, on vous donne la mission de vérifier. Vous nous confirmez, oui. Grégoire Loïs, c'est bien un champ de mésange charbonnière, je ne bluffe pas.
Ouais, c'est tout à fait ça, on peut le reconnaître super facilement. Hein. C'est des répétitions de 2-3 notes, un petit peu flûtées, pas vraiment flûtées comme celle d'un merle, mais c'est vraiment complètement caractéristique. C'est quelque chose de très rythmé, très répétitif.
Bon, formidable. Merci Eric de nous avoir fait partager vos travaux du jardin. Avec nous également Alice. Bonjour Alice.
Oui, bonjour à vous d'Aquitaine.
Ah, alors comment ça se passe de votre côté ?
Je suis en pleine campagne et je voulais partager avec vous, j'habite seule, je suis retraitée.
Oui.
Et depuis la fenêtre de ma cuisine, je vois une mangeoire qui est sur un petit poteau. Alors j'ai un livre que j'ai sorti de ma bibliothèque, un guide des oiseaux de nos jardins et des jumelles. Et j'ai identifié 8 types d'oiseaux que je voulais partager avec vous.
Alors dites-nous.
Oui, j'ai identifié des mésanges charbonnières.
Ah, vous aussi.
Des mésanges bleus. J'ai tout un tas de corneilles, des moineaux, et celui où je veux vous en parler après, j'ai une huppe faciée.
Oula.
Rouge-gorge, pinson des arbres et bergeronnette grise.
Ah bah dis donc, mais vous y connaissez beaucoup, c'est grâce à ce petit guide.
Ah non, j'y connais rien, mais c'est avec les photos sur le guide des oiseaux, le livre.
Mais c'est formidable.
Alors, la question que j'avais, je mets dans la mangeoire des boules de graisse pendant l'hiver, sans filet, hein, et je voulais savoir ce que mange la huppe faciée.
Ah, alors Grégoire Loïs, en voilà une colle. Qu'est-ce que mange la huppe faciée? Ça ressemble à quoi d'abord, la huppe faciée?
Ah, c'est absolument magnifique, une huppe faciée. D'abord, c'est huppée, hein, c'est une huppe qui est érectile, qui manifeste finalement son émotion, hein, avec la huppe. Et puis sinon, c'est orange, noir et blanc. C'est quelque chose d'assez étonnant, des ailes très très rondes. Elle est remontée d'Afrique, là, vous êtes en Aquitaine, vous avez les premières remontées.
Ah.
Et si vous regardez le bec, c'est un long bec arqué, vous avez une idée de son régime alimentaire. C'est une insectivore, elle mange de gros insectes.
Alors qu'est-ce qu'on doit mettre dans la mangeoire? On chasse les mouches?
Pour la huppe faciée, elle va se débrouiller. Elle viendra probablement assez peu à la mangeoire, sauf peut-être pour vérifier pourquoi il y a une telle activité d'oiseau autour de la mangeoire, en se disant qu'il y a peut-être une ressource à prendre. Mais elle va pas consommer les graines de tournesol.
Est-ce qu'il faut vraiment les nourrir, ces oiseaux de passage? Sophie Bécherel me disait pendant le disque, est-ce que il faut vraiment nourrir tous ces oiseaux?
En ville notamment, puisque les parcs et jardins ne sont plus là, les enfants qui jettent les restes de pain au chocolat non plus. Est-ce qu'il faut les nourrir sur les balcons?
Alors, c'est quelque chose... il y a des opinions diverses, hein, donc je vais peut-être choquer des collègues ou...
Allez-y, n'ayez crainte.
C'est quelque chose dont j'essaie de parler dans mon livre. En fait, quand on nourrit des oiseaux, on se fait surtout plaisir à nous.
Ouais.
On est dans un pays où le nourrissage, c'est populaire, mais c'est pas extrêmement populaire comme ça peut l'être en Grande-Bretagne, par exemple, où on a montré des effets du nourrissage sur les populations d'oiseaux. Donc en France, en fait, quand on nourrit, eh ben, on se fait plaisir. Et on peut comme ça découvrir les oiseaux, on peut découvrir des espèces même sans rien y connaître, avec un simple guide ou avec Internet. Il y a des ressources sur Internet, on n'a pas besoin d'avoir un livre forcément. Et du coup... Nourrir les oiseaux, c'est surtout s'émerveiller, c'est participer éventuellement à un programme de collecte de données standardisées qui va servir les scientifiques et la recherche. Donc, Je dirais que en France, comme c'est pas une activité qui est complètement qui est ultra répandue comme en Grande-Bretagne, on peut nourrir les oiseaux pour se faire plaisir. Et c'est surtout à soi qu'on fait plaisir.
Bon. Alice, vous pouvez continuer si ça vous fait plaisir.
Oui, je dois dire que si c'est pour faire plaisir, les oiseaux, ils prennent du plaisir parce que chaque année, je leur donne pendant l'hiver, j'ai deux mangeoires, deux seaux de 50 boules chacun et ils les mangent. Hein.
Bon, très bien. Alors continuez
donc
comme ça.
Ils mangent à peu près 100 boules de graisse entre octobre et mars, avril, après j'arrête. Et puis, il y a des nichées, j'ai des bébés. Donc, je pense que je me fais plaisir à les voir. Et je pense qu'eux aussi apprécient ces 100 boules de graisse pour les aider quand il fait froid.
Merci.
Et merci pour les informations sur... sur la huppe qui est, comme vous l'avez dit, elle est magnifique.
Merci à vous, Alice, d'avoir pris le temps de nous appeler et de partager ces petits moments avec les oiseaux que vous partagez. Un grand merci à vous. Vinciane Després, c'est intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'inspire, qu'est-ce que vous inspire, vous, philosophe, ce lien qu'Alice noue avec les oiseaux? Elle dit, je me fais plaisir, je leur fais plaisir. Il y a vraiment cette idée de partage. Ils nous font du bien, ces oiseaux.
Mais on sent dans ce cas, Alice connaissait déjà bien les oiseaux visiblement parce que ce n'est pas la première fois qu'elle les nourrit, mais ce qu'elle décrit avec une particulière acuité, ce que d'autres commencent à ressentir qui connaissaient moins bien les oiseaux, c'est-à-dire d'abord de l'émerveillement. Et moi, ce qui m'apparaît aussi, c'est d'entendre, surtout de la part de citadins, qui découvrent en fait qu'il existe d'autres êtres qu'humains. Mmh. Je crois que c'est peut-être ça aussi la grande surprise. C'est des gens qui n'avaient jamais prêté particulièrement attention aux oiseaux, qui d'un seul coup les voient et les entendent. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est un des effets, je vais dire peut-être un des rares effets. Enfin, on verra les effets du confinement. On verra s'il y a des bonnes choses à garder et à prendre, et on va espérer qu'on va les garder. Mais c'est un des effets du confinement, c'est un effet, il y a une espèce d'acuité de l'attention des personnes à l'égard d'autres choses que ce qui d'habitude, d'une certaine manière, capture les habitudes. Hein. Les habitudes, c'est bien ça, c'est quand on a des habitudes, on considère les choses un peu comme des meubles, on ne les voit plus. Ouais. Et d'un seul coup, le fait d'être confiné, moi je m'étais dit hier en écoutant des amis qui m'envoyaient des messages sur cette question, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce confinement, c'est qu'on apprend à retrouver des interstices, on apprend à observer par des interstices. Et vous savez, c'est un peu comme quand on fait une photo et qu'on fait une focale. Et bien, un interstice, c'est quelque chose qui va vous permettre d'intensifier ce que vous voyez d'une certaine manière dans l'interstice. Ouais. Et le fait d'être confiné, j'ai l'impression que ça crée des interstices de confinement qui font qu'on voit des tas de choses qu'on ne voyait pas auparavant et on entend des tas de choses qu'on n'entendait pas auparavant, notamment parce qu'il y a du silence. Et notamment, donc c'est pas seulement parce qu'on est moins affairé, c'est pas seulement parce qu'on est enfermé, mais c'est aussi parce que le monde lui-même est en train de changer. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je sais pas si Grégoire Loïs sera d'accord avec moi, mais il me semble que il y a quelque chose de remarquable, me semble-t-il, parce que moi j'ai toujours eu des oiseaux dans mon environnement urbain, parce que j'habite un endroit où il y a pas de voiture qui passe, et je remarque que les oiseaux chantent plus et plus fort que ce que j'avais l'habitude d'entendre.
Alors Nicolas Gilsoul,
plus, etc.
On va demander à Grégoire Loïs. Effectivement, est-ce que le silence fait que les oiseaux chantent plus, ou simplement ils chantaient déjà autant, mais nous ne les entendions plus?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Néanmoins, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que la ville est extrêmement silencieuse. Et que pour les oiseaux, en fait, chanter en ville, c'est mobiliser une ressource et c'est essayer d'être entendu. Et donc, on a des adaptations avec, par exemple, le merle noir, qui est notamment réputé pour chanter en pleine nuit en ville plus qu'à la campagne. Et l'ouverture de ces fenêtres de silence tout au long des 24 heures, il n'y a plus de trafic routier. Et d'ailleurs, il y aura probablement un impact de cette absence de trafic routier aussi, sur les écrasements par exemple. Et donc, il n'y a plus de trafic routier, il n'y a plus de bruit en ville, et on a une libération de l'espace sonore pour que les oiseaux puissent manifester leur territorialité.
Le merle noir, c'est vraiment le champion du chant en ville. Hein. On l'a tous en tête, ou en tout cas, on vous le remet dans l'oreille, le merle noir. Virtuose, le merle noir, Grégoire Loïs.
Ah ouais, c'est vraiment un des plus beaux chants d'oiseaux. Il a ces phrases qui commencent souvent avec des petites sonorités assez peu mélodieuses, mais derrière, il les fait suivre d'espèces de de phrases flûtées comme ça, et puis il interpose des silences. Moi, je trouve que c'est vraiment des... Alors, c'est peut-être associé au fait que le soir, en mai, quand les journées s'allongent, au crépuscule, on a des chants de mer et ça rend un petit peu mélancolique, mais en tous les cas, c'est un des plus beaux chants.
On l'entend à votre voix que ça vous rend mélancolique. Nicolas Gilsoul, est-ce qu'on fait assez de place dans les villes aux oiseaux en temps normal? Vous, l'architecte, est-ce qu'on pourrait imaginer des constructions qui laissent des interstices pour les oiseaux?
Oui, oui, mais je pense qu'il y en a déjà. Il y a déjà pas mal d'adaptations de cette faune. Je pense au martinet noir, au choquet des tours, au faucon pèlerin. Enfin, il y a tout un tas d'animaux qui utilisent déjà nos architectures comme des falaises avec des replis, des petites grottes, des choses comme ça, des fissures, des interstices dans lesquels ils peuvent nicher. Le grand danger, c'est évidemment les grandes tours de verre miroir. Hein. On sait le nombre de millions d'oiseaux qu'on doit balayer chaque année au pied des tours de grandes villes comme Chicago.
Parce qu'ils foncent dans les gratte-ciels, les oiseaux, en fait. Ils ne voient pas, ou en tout cas trop tard, ces grandes baies vitrées, et puis ils rentrent dedans.
Exactement. Maintenant, il y a, par rapport à ce qu'on venait de dire avant sur le chant des oiseaux qui était plus fort, où il y a effectivement eu des adaptations incroyables, hein, puisqu'on sait que à proximité de certains aéroports, certains oiseaux chantent plus fort ou chantent en fonction des horaires de décollage et d'atterrissage des avions. Par rapport aux boules de graisse et à la façon de les nourrir, c'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, Grégoire, par rapport aux Anglais, on sait que certains oiseaux aussi ont adapté la forme en quelques générations, la forme de leur bec pour pouvoir manger des graines qu'on leur donnait qui étaient plus grosses que celles qu'on trouvait dans la nature, voire même de changer leur couloir migratoire, enfin leur trajet migratoire, pour pouvoir faire un stop en Angleterre, là où ils étaient quand même, où les petits breakfasts étaient quand même bien plus savoureux. Donc on sait qu'on a quand même un effet sur eux. Ce qui me paraît important quand même à dire, parce que c'est extra qu'on soit tous en train d'affûter notre regard sur cette nature, et ça, merveilleux. Quand on sait que les enfants hachoirs dans la forêt d'Amazonie connaissent 300 noms d'oiseaux et savent imiter 300 chants d'oiseaux quand ils ont à peine 10 ans, c'est vrai qu'on se rend compte que peut-être ce confinement peut nous aider à regarder ce qu'il y a autour de nous. Mais ce qui est important aussi, il me semble, de dire, c'est de ne pas tomber non plus dans l'idée que parce qu'on est depuis 12 jours enfermé, la biodiversité se porte beaucoup mieux. Mmh. Simplement, on l'entend parce qu'elle était là et que maintenant, comme on fait silence, on l'entend et on commence à la regarder. Ceci dit, c'est pas en 8 jours qu'on va, ou en 12 jours, ou même en 6 semaines, qu'on va récupérer les 3 moineaux sur 4 en Ile-de-France qu'on a perdu, ou les 75% d'insectes volants disparus ces 30 dernières années. Ça, c'est important à comprendre aussi. Donc, je pense qu'au moment du grand réveil, une fois que le confinement sera terminé, et on va se réveiller dans une nurserie. Ça, c'est important de comprendre aussi. C'est-à-dire que, comme on a fait silence, comme les parcs sont fermés, les oiseaux et d'autres animaux, les hérissons sont en pleine période de reproduction, donc il y a toute une série, les renards ne sont pas chassés, les blaireaux non plus, donc il y a toute une série d'animaux qui sont en train de se reproduire en ce moment, et qui, au moment du grand réveil, vont faire leur premier pas sur la route, sur les boulevards des villes, et à ce moment-là, nous, on va, dans une liesse et une joie intense, se retrouver, reprendre nos habitudes, et on va se réveiller au milieu d'une nurserie. Oui. Je pense que là, il y a un enjeu important à prendre en compte.
On va en parler dans la dernière partie de l'émission, notamment avec Denis Chessou, qui va nous rejoindre, et puis il y a plusieurs auditeurs qui attendent en ligne. On n'a pas fini de parler de nature et de prendre l'air avec vous dans Grand Bien vous fasse ce matin.
Everybody needs some love, and so do you. Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. There was this girl that I once knew. Let's just say her name was Rosie, Rosie Blue. Rosie was
was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark, and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie in Morocco, Agadir. And how I wish that Rosie was still here. Then I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad? Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love, and so do you. Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. Oh, I wish I knew that Rosie was depressed. Couldn't find love, cause her inside was a mess. In this crazy world we're living in, there's too many rosy blues. And if you take a moment, I'm quite sure you might think of a few.
C'était Rosie Blue, Ayo sur France Inter.
France Inter. Grand bien vous fasse. Daniel Fievé.
Et on prend un bol d'air de nature sur France Inter dans Grand bien vous fasse ce matin avec des auditeurs qui nous appellent, bien sûr. David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe de nature. Est-ce que vous arrivez à prendre des photos depuis votre fenêtre en ce moment?
Oui, exactement. C'est depuis ma fenêtre, et comme j'ai la chance d'être dans un petit hameau à la campagne, depuis là. Le pas de ma porte aussi, où il y a une petite rivière, et donc j'ai proposé de partager ça, effectivement.
Alors, qu'est-ce que vous avez réussi à prendre en photo depuis le début du confinement?
Alors, j'ai presque 30 espèces en photo, des choses très communes que tout le monde peut avoir chez soi, que tout le monde connaît déjà, et puis des choses qui moi-même m'ont un peu surpris, parce que je me retrouve comme tout le monde à regarder mieux ce qui est à côté de chez moi.
Mmh. Par exemple?
Par exemple, alors le très commun, mais je m'en lasse pas, c'est le rouge que noir, puisque lui il est à la hauteur de ma tête quand je suis à ma fenêtre, parce que j'ai un petit étage. C'est un régal, quoi. Je peux pas tout dire, parce qu'en fait, on joue aux devinettes.
C'est ça, vous mettez en ligne actuellement vos photos, et il faut deviner, et moi je mets les pieds dans le plat en vous demandant les réponses. C'est sur un site internet, c'est ça? Où est-ce qu'on peut voir vos photos?
Oui, alors vous pouvez vous inscrire, il y a un petit bouton que j'ai rajouté exprès sur le site de l'association pour laquelle je travaille, qui s'appelle Orbister. Sur orbister.fr.
Comment vous appelez ça, qu'on vous retrouve?
O-R-B-I-S-T-E-2-R-E.fr, orbister.fr. Donc, j'appelais ça les oiseaux du hameau, écrit un peu bizarrement. Et donc, tous les jours, si ça vous intéresse, j'envoie un petit mail avec les photos, alors du jour ou des jours précédents, parce que c'est les oiseaux qui choisissent s'ils veulent être pris en photo ou pas. Et je laisse la soirée le lendemain pour deviner avant d'avoir la prochaine lettre. Avec la réponse et une nouvelle espèce.
Très bien, on va mettre ce lien sur la page de Grand Bien vous fasse pour que les auditeurs qui veulent garder un lien et rester connectés avec la nature puissent jouer à vos jeux de photos. Un grand merci, David, d'avoir pris le temps de nous appeler. Christian est avec nous. Bonjour, Christian.
Bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour à toute l'équipe.
Alors, on a parlé beaucoup d'animaux, mais on peut aussi s'intéresser aux plantes avec vous. Racontez-nous.
Absolument. Alors, c'est un projet que j'ai, c'est une suggestion pour vos auditeurs. J'ai l'intention de me constituer un herbier que je qualifierais de modeste. Mmh. Alors, à l'aide d'un smartphone, c'est très simple, d'une appli que l'on trouve sur les plateformes, il y en a une qui s'appelle PlanNet, P-L-A-N-N-E-T. Elle a été développée dans la région de Montpellier. Et l'idée, c'est de photographier toutes ces plantes, toutes ces fleurs qui sont dans notre environnement. Alors ça peut être dans un jardin, ça peut être celles qui vont se nicher dans ces interstices, comme vous l'indiquiez, que notre on a une auteure en Languedoc qui s'appelle Marie Rouanet, qualifie de la douce chair des villes, mmh, le long des trottoirs.
C'est joli.
Et puis ce sont toutes ces haies de végétaux qui délimitent les terrains, les propriétés.
Nicolas Gilsoul, vous aussi, je crois que en ce moment, les rares sorties que vous vous autorisez, c'est pour votre chien, et vous avez découvert quelques plantes rares dans les rues à Paris.
Oui, oui. Alors c'est grâce à Mademoiselle Lily, qui est mon petit chien. Elle me permet de sortir trois fois par jour.
Bon, la salue.
Voilà. Dans le 11e arrondissement, c'est un des quartiers les plus denses. Je crois que c'est le quartier le plus dense de Paris. Hein. On a la même densité qu'à Hong Kong. Et c'est vrai que j'ai trouvé au pied des arbres. Alors je ne sais pas si c'est rare, je pense pas. Mais c'est étonnant parce qu'on les regarde jamais. Et donc j'ai trouvé comme ça une très très belle fleur à cinq comme une étoile. Mauve qui s'appelle Lycéon et qui vient du Paraguay. Il y a aussi la patience et l'oseille. Et en creusant un petit peu, c'est vrai que patience et oseille, c'est des cousines, c'est le rumex. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte, pas creuser réellement, mais creuser oui, au niveau des bouquins, etc., on se rend compte que ce rumex devient un petit peu les plantes hôtes, donc c'est un hôtel, pour toute une série de chenilles, de papillons de nuit extraordinaires, comme la brocatelle d'or ou la noctuelle héliaque. Et c'est vrai que ça, c'est formidable, parce que en une promenade qui fait 10 minutes avec le chien, bah, c'est le chien qui trouve des plantes incroyables. Je les photographie, quand je reviens à la maison, je découvre toute une chaîne de vivant, depuis la plante jusqu'au papillon, en passant par les oiseaux qui peuvent les manger, etc., le ciri jaune et compagnie, mmh, qui ouvrent un monde incroyable qui est juste au pied de chez vous. Quoi. Mmh.
Christian, est-ce que votre herbier modeste, on aura la possibilité de le voir en ligne une fois qu'il sera confectionné?
Oui, pourquoi pas. Je vais m'atteler à ce travail et je suis prêt à le mettre en ligne, bien entendu. Mmh. Hein. Moi, je suis amoureux de la photographie et donc je vais en profiter pour développer mes compétences de macro-photographie. Mais encore une fois, c'est à la portée de toutes les familles. Ma petite suggestion, là, qui est tout à fait simple. Et puis l'idée, c'est de, elle peut prendre la forme d'un jeu aussi. Par ouais, exemple, les enfants, quand ils se rendent à l'école, ils pourront s'amuser à renommer ces plantes qu'ils auront identifiées dès lors qu'ils pourront retrouver le chemin de l'école.
Merci Christian pour cette jolie suggestion et puis bonne chasse photographique à vous alors. Bonjour Denis Chessou.
Bonjour cher Daniel et bonjour à tous.
Quel plaisir de vous entendre, animateur et producteur de CO2 Mon Amour, alors qui est passé le dimanche cette année à 13h20, momentanément interrompu depuis le début du confinement, mais qui reviendra dès le week-end prochain avec une double dose le samedi et le dimanche à 13h30 avec des rediffusions de CO2 Mon Amour qui nous feront le plus grand oui, bien. Comment vous allez Denis?
Écoutez, moi, je suis quand même dans un terrier tout à fait fonctionnel, c'est-à-dire que j'ai cette chance d'être en banlieue avec un jardin depuis 25 ans. Donc, évidemment, quand je pense à des personnes qui sont confinées à 5 dans 50 mètres carrés, je me plains pas une seconde, ce serait tout à fait indécent. Donc, si vous voulez, il faut toujours avoir un tube de crème, vous savez, à ses côtés, parce qu'on se lave les mains 24 fois par jour comme un raton laveur. Bon, ça, c'est une chose.
Oui.
Et puis, sinon, sous les yeux, moi, je bois du petit lait, bien que le petit lait, c'est davantage mieux pour les cochons que pour les humains, mais ça, c'est autre chose. Et donc, moi, j'ai mis jumelles et j'ai coché déjà 25 oiseaux, quand même, si vous voulez, dans mon jardin. Et alors, j'ai vu hier le chardonneret élégant. Alors, c'est un passereau extraordinaire, celui-là. Vous avez une plage jaune sur l'aile qui peut rappeler un petit peu le verdier, mais le verdier, il est davantage vert ou brun. Et donc, il a ce masque rouge assez étonnant. Il a ce bec qui est épais à la base, mais qui est pointu à l'extrémité. Et donc, c'est une merveille. Ça m'a mis en joie parce que, celui-là, non, évidemment, vous connaissez par cœur, vous l'avez évoqué, Daniel.
C'est vous qui faites ça, mais quel homme de radio, Denis.
Ça, c'est évidemment, c'est notre merle noir. Ben oui, bien sûr, Daniel. Alors, en fait, quand on parle du merle noir, c'est plutôt le mâle qui est noir, parce que la femelle est davantage brune. Et là, ça ne va pas arrêter, là, bientôt, lorsqu'il va falloir nourrir les petits. Il leur faut pratiquement une cinquantaine de prises de proie à l'heure. Donc, vous avez un balai de dingue, évidemment, avec ces merles. Et c'est donc toujours complètement étonnant de voir donc cette vie qui reprend le dessus. Et c'est vrai qu'on est dans cette période-là, qui est extrêmement troublante, parce oui, qu'on a à la fois cette cette montée, je veux dire, qui est mortifère, parce que c'est vraiment le mot. Et en même temps, on a cette marée du printemps qui est ailée, donc ça cuicuite partout, le quotidien est en sourdine, la bande-son de nos villes, vous en avez parlé, la playlist de la vie, c'est le vent qui joue du violoncelle dans les arbres, c'est évidemment des sirènes de police ou d'ambulance, et donc aussi les oiseaux qui ont chacun leur partition sous leur aile, et de temps en temps une cloche d'église.
Et Denis, vous, l'homme qui avait créé la première mouture de CO2 Mon Amour en 97, puis un magazine d'environnement régulier en 2000, que vous inspire cette situation? Parce que ce qui nous arrive en ce moment est quand même très lié à la façon dont on a traité le vivant, les écosystèmes, la biodiversité ces dernières années, ces dernières décennies.
Alors vous savez, il y a 15 ans, moi j'ai retrouvé un entretien que j'avais fait avec à la fois Jean-Marie Pelt, donc pharmacien, Jean-Louis Etienne, donc qui est mon grand ami du Tarn, parce qu'on est du même coin, qui est médecin. Et au-delà du réchauffement climatique dont tout le monde se foutait donc à l'époque, nous on en parlait évidemment déjà, au-delà de la perte de biodiversité qui a été évidemment tout à fait évoquée par Nicolas, il nous disait que les ennuis graves viendraient de l'infiniment petit. Autrement dit, effectivement, des virus. Et ce rapport, on le sait, ça a déjà été mouliné, mais c'est quand même bon de le rappeler, que le rapport entre l'apparition de ces nouveaux virus et des atteintes écologiques planétaires sont aujourd'hui évidentes. Et j'entendais, je ne sais plus quel auteur italien, mais qui avait une très belle formule, disait que ce virus est un réfugié de la destruction environnementale. Donc évidemment qu'on est là donc à la croisée des chemins. Est-ce que cela va sonner après, je dirais, le ralentissement de la mondialisation à la fois destructrice et heureuse? Est-ce qu'il faudra nous prosterner toujours devant une statue économique financière qui est, je dirais, folle de son corps et qui n'a que pour seul but qu'elle-même? Je ne sais pas. En même temps, pour les gens qui ne savaient pas ce qu'était un effondrement, bon, là, ils l'ont grandeur nature. De même que la mer de glace est un effondrement, de même que les oiseaux qui disparaissent le sont aussi. Mais derrière, effectivement, il y a un renouveau. La nature a toujours fonctionné de cette manière-là. Alors j'espère qu'on s'en sortira, mais voilà ce que ça m'inspire aujourd'hui.
Merci. Merci Denis, je vous coupe un peu abrupt, mais je vous propose, faudra qu'on se fasse un rendez-vous régulier le samedi matin, vous viendrez nous parler de nature, ça nous fera le plus grand bien dans Grand Bien Vous Fasse. Merci à tous les quatre, hein, Vinciane Després, Nicolas Gilsoul, Grégoire Loïs et Denis Chessou. Dans un instant, nous nous évaderons au pôle sud avec l'explorateur Mathieu Tordeur, et puis dans le deuxième dossier de la matinée, nous parlerons cybersécurité avec Eric Fraissinet, chef du pôle national de lutte contre les cybermenaces de la gendarmerie nationale. Il nous dira quels sont les bons réflexes à adopter pour éviter de se faire pirater son ordinateur à l'heure du télétravail et des cours en ligne. Il ne manquerait plus que ça. Vous pouvez lui adresser vos questions par mail ou par téléphone au 01 45 24 7000. À tout de suite.